C'est l'été sur France Culture, le journal. Le journal vous est présenté par Clarence Rodriguez.
Bonsoir à tous. Finale de la Coupe du Monde de football entre la France et la Croatie. Les Bleus mènent 2-1. Dès 14h30 sur son compte Twitter, la préfecture de police de Paris annonçait que la fan zone du Champ de Mars avait atteint la capacité d'accueil. Il y a même eu un mouvement de foule sans gravité. De nombreux supporters ont dû se rabattre dans des bars à proximité où nous rejoindrons Bastien Roch en direct. Un cessez-le-feu de courte durée entre l'armée israélienne et le Hamas hier soir. Des tirs de mortier vers l'État hébreu ont repris, tout comme les bombardements sur Gaza. Nous irons à Jérusalem rejoindre notre correspondante Marie Semelin. Triste record en Afghanistan, 1692 civils tués pour moitié dans des attentats attribués au groupe État islamique durant le premier semestre de cette année. C'est le pire bilan diffusé par l'ONU et ce malgré les 3 jours de cessez-le-feu décrétés en juin dernier à Kaboul. Les précisions de Sonia Rezali. Finale entre la France et la Croatie et les Bleus mènent par 2-1. Ils sont provisoirement champions du monde. Plus de 30 millions de Français suivent cette finale, que ce soit chez eux, entre amis ou dans des fun zones organisées un peu partout en France. Dès 14h30 sur son compte Twitter, la préfecture de police de Paris a annoncé que la fan zone du Champ de Mars avait atteint la capacité d'accueil de 80 000 personnes. Il y a même eu un mouvement de foule sans gravité. De nombreux supporters mécontents ont dû se rabattre dans des bars à proximité du Champ de Mars pour les récalcitrants. La police a dû utiliser des bombes lacrymogènes. Bastien Roch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez le match dans un de ces bars de la capitale. 2-1, on peut dire que l'équipe de France est provisoirement championne du monde ?
Oui, en tout cas, certains ici veulent y croire. Déjà, le bar, la terrasse, comme l'intérieur, était déjà bondé largement une heure avant le coup d'envoi. Le patron du bar croulait sous les réservations. Il annonce officiellement complet depuis 11 heures, à tel point que les bières sont maintenant servies uniquement en pinte pour réduire le nombre de commandes et pouvoir permettre aux employés de servir tout le monde. C'est dire si les gens sont nombreux. Ici, 150 personnes ont les yeux rivés sur les 4 écrans. Certains sont venus de loin, de la banlieue sud de Paris. D'autres sont des voisins qui sont simplement venus chercher l'ambiance, la ferveur propre au grand match. Les couleurs bleu, blanc, rouge sont sur toutes les joues. Certains ont même sorti les drapeaux de toutes les tailles. Ce sont des acclamations à chaque fois qu'un camion de pompiers ou même de police passe avec les gyrophares. Jeunes ou vieux, tout le monde forcément s'est levé pour la Marseillaise. Certains ici vivent leur première finale de Coupe du Monde. Avec les Bleus, ils n'étaient pas nés en 98, ni même en 2006. Contre l'Italie. Alors forcément, les visages étaient un peu tendus en début de match à cause de l'entame, on peut le dire, timide des Bleus. Mais heureusement, l'ambiance s'est détendue avec des explosions de joie à la 18e minute et à nouveau juste avant, à 10 minutes de la mi-temps. À chaque fois en fait que la France a repris l'avantage, on peut dire que l'ambiance s'est nettement allégée. Donc vous l'avez dit, ballotage favorable à la reprise pour les Bleus. Et certains ici rêvent déjà de remonter l'avenue des Champs-Élysées ce soir.
Merci Bastien, nous vous retrouverons à la fin de ce journal. L'un aura donc tourné demain la page du Mondial organisé chez lui. L'autre aura passé un week-end dans son club de golf écossais, loin des manifestations hostiles à sa présence. Vladimir Poutine doit rencontrer Donald Trump demain à Helsinki, dans la capitale finlandaise. Avant même d'entamer sa tournée européenne, le président américain avait estimé que ce sommet serait le plus facile, même s'il y a pourtant des questions épineuses entre les deux puissances. Yves Boyer de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Il y a un certain nombre de sujets de désaccord entre les deux présidents, mais il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels ils peuvent réfléchir et peut-être bâtir un certain nombre de choses. Il y a la lutte antiterroriste et là, il y a des échanges qui peuvent se faire entre services de renseignement sur les mouvements terroristes, sur la où en est Daesh, etc. Sur la Syrie, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est les Russes qui mènent un peu la danse et les Américains avec Trump songe à se retirer de Syrie. Donc il y a un certain nombre de points qui peuvent faire l'objet de discussions. J'évoquerai également les problèmes énergétiques où là il y a peut-être aussi des choses à discuter ensemble, même si évidemment les deux pays ne sont pas du tout dans la même posture. Il y a la question ukrainienne qui un jour ou l'autre devra faire l'objet d'un règlement. Il y a l'histoire des sanctions qui ne peuvent pas durer éternellement. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets difficiles dont il faut discuter, que les deux présidents vraisemblablement aborderont. La diplomatie, c'est pour discuter avec ceux qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que vous.
Yves Boyer de la Fondation pour la Recherche Stratégique, il était interrogé par Nabila Hamel. Triste record en Afghanistan, 1692 civils tués pour moitié dans des attentats attribués au groupe État islamique durant le premier semestre de cette année. C'est le pire bilan diffusé par l'ONU et ce, malgré les 3 jours de cessez-le-feu décrété en juin dernier. Les précisions de Sonia Rezali.
Les attentats sont le principal danger pour les civils, peut-on lire dans ce rapport. La capitale Kaboul est la province du Nangarh, dans l'est du pays, où s'est implanté le groupe État islamique fin 2014, sont les lieux les plus à risque pour la population. Sur les 1700 civils tués au cours des 6 premiers mois, la moitié sont des victimes d'attentats perpétrés par le groupe terroriste. La Manua s'inquiète également d'une tendance émergente des insurgés à cibler des bâtiments éducatifs, à l'image de l'attaque perpétrée la semaine dernière contre un bâtiment du département de l'éducation à Jalalabad, causant la mort de 11 personnes et revendiquée par l'organisation État islamique. Autre constat de la mission humanitaire de l'ONU en Afghanistan, la forte augmentation du nombre de victimes civiles dues aux bombardements aériens, afghans et américains, en expansion dans l'est et dans le nord de l'Afghanistan. 149 civils ont été tués, 200 blessés, soit 50% de plus par rapport à la même période l'année dernière. Si le cessez-le-feu de 3 jours observé par les talibans à l'occasion des fêtes de l'Aïd qui a marqué la fin du Ramadan en juin dernier a suscité un espoir pour des négociations de paix, les combats ont rapidement repris entre forces gouvernementales et insurgés. Ces derniers sont responsables de la mort de plus de 700 civils sur les 6 premiers mois de l'année.
Sonia Rezali à Kaboul. Entre Israël et Gaza, le répit aura été de courte durée. Hier, un cessez-le-feu a été annoncé, mais quelques heures plus tard, les tirs de mortier vers l'État hébreu ont repris, tout comme les bombardements sur l'enclave. Même si aujourd'hui, la situation a été un peu plus calme. La correspondance à Jérusalem de Marie Semelin.
Le cessez-le-feu sous médiation égyptienne annoncé samedi soir par le Hamas devait mettre fin à 24 heures d'escalade entre Israël et la bande de Gaza, mais il a tenu seulement quelques heures, même si aujourd'hui la tension a diminué d'un cran. Des escalades comme celle d'hier, il y en a déjà eu 2 récemment, fin mai puis fin juin. L'armée affirme que les frappes aériennes qu'ils viennent de mener sont les plus importantes depuis la guerre de 2014. Les habitants du sud du pays, près de l'enclave, ont entendu ce week-end plus d'une centaine de fois la sirène d'alerte à la roquette. Beaucoup ont été interceptés par le système antimissile Dôme de fer, mais certains de ces projectiles ont atteint une ville, celle de Sderot, située à 2 km de Gaza, faisant 3 blessés légers. À Gaza, 40 cibles ont été visées par Israël et 2 adolescents palestiniens qui se trouvaient en bas d'un des immeubles bombardés ont été tués. Ni Israël ni Gaza ne semblent souhaiter une guerre, mais à Gaza, le Hamas n'a pas d'issue face à une situation économique et sociale désespérée. Côté israélien, ce sont les cerfs-volants incendiaires envoyés depuis Gaza qui exaspèrent les Israéliens et poussent une partie du gouvernement à vouloir se montrer très ferme, des éléments qui contribuent à l'instabilité de la situation.
Marie Semelin à Jérusalem. En Espagne, un millier de personnes se sont rassemblées aujourd'hui au mausolée de Franco, à 50 km de Madrid, pour protester contre la décision du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez de se débarrasser de la dépouille du dictateur qui a gouverné le pays de 1939 à sa mort en 1975. Les manifestants ont répondu à l'appel d'un mouvement d'extrême droite à Madrid, Marie-Hélène Ballesteros.
À son arrivée au pouvoir début juin, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a annoncé sa volonté de retirer les restes de Franco de son mausolée del Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, située tout près de Madrid. Le nouveau gouvernement socialiste veut en faire un lieu de réconciliation, un mémorial des victimes du fascisme. Or, cette décision ne plaît pas à tout le monde. À l'appel d'une association d'extrême droite Mouvement pour l'Espagne, des centaines de participants se sont donc déplacés aujourd'hui jusqu'à la monumentale basilique où est enterré le dictateur Franco. Une pérégrination nationale patriotico-religieuse pour protester contre la décision du gouvernement de Pedro Sánchez de transférer les restes de Franco hors du mausolée. Une exhumation qui devait avoir lieu pendant ce mois de juillet, mais qui devrait être finalement reportée selon le ministre de l'équipement José Luis Ábalos, qui a accordé une interview ce dimanche au journal El Mundo. Mais le gouvernement Sánchez veut aller plus loin. Mercredi dernier, la ministre de la Justice Dolores Delgado a annoncé une réforme intégrale de la loi de mémoire historique concernant la guerre civile et la dictature espagnole. Parmi les mesures, la création d'une commission vérité pour recenser et rechercher les milliers de disparus victimes du franquisme. La plupart ont été enterrés dans des fosses communes à travers tout le pays. C'est désormais le gouvernement espagnol qui devrait assumer cette recherche et non pas les bénévoles ou les proches des victimes. L'Espagne reste le 2e pays en nombre de disparus après le Cambodge.
C'est un dispositif qui a fait parler de lui ces derniers temps. Deux femmes ont été tuées en quelques jours par leur ex-conjoint, alors qu'elles bénéficiaient du dispositif téléphone grave danger, généralisé en France depuis 2013. Il est aujourd'hui indispensable pour les femmes menacées de violence par un ex-conjoint. Laura Dulieu.
Ce téléphone a l'apparence d'un smartphone classique, pourtant sa seule fonction est de donner l'alerte pour les femmes menacées par un ex-conjoint. Il suffit d'appuyer sur un bouton, un service spécialisé répond, évalue la situation et si besoin envoie les forces de l'ordre sur place. Un dispositif rassurant et conséquent, comme l'explique Olivia Tabaste, directrice du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles à Paris.
C'est l'objectif du TGD, qu'elles reprennent confiance en elles, qu'elles reprennent des espaces de liberté. En revanche, c'est aussi un dispositif qui est lourd. Nous, on les contacte assez régulièrement pour faire le point sur la situation. Ça leur demande aussi d'aller dénoncer les moindres faits auprès des forces de l'ordre, donc dès qu'il y a une prise de contact, de retourner au commissariat, de porter plainte.
Pourtant, quand une femme déclenche l'alerte, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui répondent, mais un opérateur privé, plus efficace selon Olivia Tabaste.
Quand Alliance Assistance déclenche l'arrivée des forces de l'ordre, ça passe par un canal d'urgence. Et en fait, il n'y a pas de réévaluation de la situation auprès des forces de l'ordre. Eux, ils ont juste une transmission informatique de la personne concernée, de la situation, du nom de l'auteur, etc.
Les drames sont donc rares. La première femme assassinée avait même déclenché l'alerte sur son téléphone. Youssef Badr, porte-parole du ministère de la Justice.
L'opérateur n'a pas été en mesure d'entendre la victime. Il a essayé de la rappeler à plusieurs reprises et du coup, comme le veut le protocole, il a immédiatement déclenché l'intervention des forces de l'ordre. C'est la première fois qu'une femme est assassinée ou est tuée alors qu'elle est en possession du téléphone très grave danger. Des femmes violentées avec le téléphone, c'est déjà arrivé. Des drames ont été évités de justesse grâce à ce dispositif. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est pas une armure.
L'année dernière, en métropole, 543 femmes avaient ce téléphone. Le dispositif devrait bientôt être élargi aux Antilles.
C'est l'événement du jour, France-Croatie. Nous rejoignons tout de suite Bastien Roch en compagnie de supporters tricolores dans un bar de Paris. Toujours 2-1 pour la France, Bastien.
Oui, pour l'instant, ça sent plutôt bon pour l'équipe de France, pour l'instant en tout cas. Alors après une entame, on peut le dire timide, les Bleus ont ouvert le score dès la 18e minute sur un coup franc de Griezmann. Le Croate Mandzukic a marqué contre son camp. C'est son coéquipier Perisic qui a ensuite ramené la Croatie à 1 partout. Et les Bleus ont ensuite poussé jusqu'à obtenir un pénalty après une main croate dans la surface de réparation. Pénalty transformé par le buteur en chef des Bleus, Antoine Griezmann. 2-1 donc pour les Bleus. Sur la terrasse comme dans la salle du bar, l'ambiance s'est réchauffée. Les supporters veulent croire à la victoire finale, mais rien n'est encore fini. Il reste une bonne grosse demi-heure avant la consécration finale.
Oui, et puis la Croatie n'a pas dit son dernier mot. Donc 2-1, la France est pour l'instant championne du monde. Mais avant de refermer ce journal, le temps demain, marqué en début de matinée par des orages et précipitations en Aquitaine, Occitanie et Bretagne. Dans le Var, le vent soufflera fort. Il faudra s'attendre à des pluies et des chutes de grêle sur la moitié nord, hormis en Bretagne et sur le Cotentin où le ciel restera très nuageux. Les nuages alterneront avec de belles éclaircies, des ondées toutefois sur la Bourgogne et le Grand Est. La tramontagne soufflera en journée dans le Roussillon avec des pointes à 80-90 km à l'heure. Côté température, elles seront agréables entre 24 et 28 degrés sur une grande partie du pays. Seulement 21 à 23 degrés en Bretagne et sur le littoral normand et encore 29 à 31 degrés sur le Grand Est et en Corse. C'est la fin de ce journal réalisé par Brice Garcia et Alexandre Dang à la technique. Très belle soirée.